Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Pollier, le metteur en scène du Maître et Marguerite, en ce moment au Théâtre du Loup. Puis Maddy Vinciguerra, la directrice éditoriale du Petit Larousse, nous parlera du grand relookage que le couturier Christian Lacroix a effectué sur le dictionnaire maintenant centenaire. Le Maître et Marguerite est à l'origine un roman burlesque et foisonnant. C'est l'histoire de Satan qui vient à Moscou, accompagné de ses acolytes. C'est aussi l'histoire d'amour entre le maître, un auteur, et Marguerite, une femme qui sacrifie tout par amour pour lui. Le diable les aidera. Ce roman a été terminé en 1940 par l'auteur russe Mikhaïl Bulgakov. Laurence de Coulon va présenter Frédéric Pollier.
Frédéric Pollier est metteur en scène et acteur et a notamment mis en scène Escalade ordinaire de Werner Schwab pendant le Festival de la Bâtie en 2001. Il a également mis en scène Topaz de Pagnol cet été au Théâtre de l'Orangerie. Et en tant qu'acteur, il a participé en 2003 à Eddie F. de pute au Théâtre du Poche, une création de Jérôme Robard. Bonjour Frédéric Pollier.
Bonjour.
Vous mettez actuellement en scène, on peut voir actuellement en scène Le Maître et Marguerite au Théâtre du Loup. Le Maître et Marguerite est à l'origine un roman de Mikhaïl Bulgakov. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contexte historique dans lequel est né ce roman ?
Le roman a été écrit entre 1928 et 1940, qui est la date de sa mort. C'est-à-dire qu'il l'a à peu près terminé en 38 et il a continué à faire des corrections jusqu'en 40. Et il n'a pas réussi à tout revoir d'ailleurs. Mais enfin bon, il est terminé et bien terminé parce que c'est un roman à tiroir où il y a à poupée russe dans lequel il y a plusieurs fins même. Alors, il y a un peu des fins à rallonge comme ça, mais qui sont chaque fois qui sont pas forcément très cohérentes si on cherche une chose rationnelle dedans, mais qui se tiennent en fait. Plus on le lit, plus tout se tient. Dans quel contexte il a été écrit ? Il a commencé à l'écrire. En fait, Bulgakov à la base a écrit pas mal de nouvelles, a fait beaucoup de chroniques satiriques de journaux, journalistiques, et il commence à écrire ce roman dans une période très difficile pour lui, c'est-à-dire où toutes ses pièces sont interdites par Staline. C'est l'année du grand tournant, de la grande catastrophe en 1929. Et voilà où le totalitarisme devient total, si je puis dire, à partir de 29. Et là, ça s'arrange pas pour lui. Disons que jusqu'en 31 ou 32, le moment où il fait un acte assez difficile, c'est-à-dire qu'il écrit une lettre au gouvernement de l'URSS lui demandant de pouvoir s'enfuir, de pouvoir partir, puisque aucune de ses pièces n'est montée et que ses pièces avaient quand même un succès assez grand.
Est-ce que ça a été accepté ?
Et finalement, on dit qu'il aurait reçu un coup de fil de Staline et qu'on lui aurait donné une place d'obscur assistant, deuxième assistant dans un obscur théâtre. Enfin, toujours est-il qu'il a surtout gagné sa vie en écrivant soit des livrets d'opéra, puisqu'il a continué à écrire des pièces, mais ses pièces ont continué d'être refusées. Il a écrit entre autres, bon, pour citer quelques œuvres de Bulgakov parallèles au Maître et Marguerite, il y a le roman théâtral qui raconte ses déboires dans le monde du théâtre, qui parle d'un auteur, Max Oudov, qui présente ses pièces de théâtre, sa pièce de théâtre. Il croit que sa pièce va être montée et finalement cette pièce se noie dans la bureaucratie ambiante. Et le Maître et Marguerite traitent également de ça, mais traitent également aussi d'énormément de choses. Disons que c'est plutôt son roman libérateur, celui dans lequel c'est son espace de liberté, disons.
Alors effectivement, le Maître et Marguerite traitent d'énormément de choses. Quand même, quel est le fil conducteur de ce roman ? Pas forcément le fil conducteur, mais l'histoire, en gros.
Alors, disons que la base, on pourrait le comparer à... C'est une sorte de Faust. Il reprend le mythe de Faust, il le détourne allègrement. Il le connaît très bien. Le ou les mythes, donc que ça soit Goethe ou Marlowe, j'y arriverai. Et tout ça matiné de fantastique, c'est-à-dire il est influencé par Hoffmann, entre autres, et aussi, surtout, son maître, je pense, qui est Gogol. Donc je crois qu'il y a une particularité de la littérature russe, c'est de s'auto-citer sans complexe. Donc il n'y a pas forcément une recherche absolue d'originalité. On reprend les anciennes œuvres et on les cite. On reprend même des caractères tels quels, ou même les caractères ou personnages de ces œuvres deviennent des types, comme chez nous par exemple l'avare. L'avare, je dis pas au hasard, puisqu'il a écrit un livre sur Molière. Écrire un roman qui s'appelle Molière et une pièce qui s'appelle La Cabale des Dévots. Décidément, aujourd'hui, La Cabale des Dévots.
Beaucoup d'intertextes.
Où il parle du rapport donc de Molière avec Louis XIV, qui peut être, parfois de manière plus ambiguë, se retrouve être celui entre Bulgakov et Staline. Que je pense que Staline appréciait énormément les pièces de Bulgakov, mais il se devait de les interdire pour prolonger sa paranoïa de dictateur.
Mais finalement, qui est-ce qu'on retrouve au début de la pièce? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je pense que le roman, donc là on parle de, si vous me parlez de la pièce, c'est-à-dire il s'agit d'une adaptation.
Tout à fait.
D'une adaptation qui, je crois, je crois pas d'ailleurs, je le sais, mais traverse une belle partie du roman, donc une bonne vingtaine de chapitres sur les 33 qui existent. Si on parle du roman, c'était quoi la question déjà?
Pardon, oui, en fait, je vous demandais par quoi commençait le roman et par quoi commence la pièce également. En fait, on retrouve un journaliste, Berlioz, et un jeune poète qui parlent de, qui prétendent que le Christ n'existe pas.
Voilà, alors la première scène qui est à peu près incontournable, qui est quand même la première équation, la base du roman et de l'adaptation également, c'est... on est dans un parc, l'étang du patriarche, et c'est déjà une malice de Bulgakov parce que à la période où il écrit, ça s'appelle, on a déjà changé le nom de ce lieu dit étang du patriarche, on l'a appelé l'étang des pionniers. Donc puisqu'il y a quand même à cette période Bulgakov a été très blessé par toutes les persécutions religieuses qu'il y a eu après la révolution en 17, et étant lui petit-fils de prêtre orthodoxe, il a subi ça assez fortement. Il revient à ce titre, enfin à ce nom, l'étang du patriarche, et ce premier chapitre qui s'appelle ça dépend des traductions, mais Ne parlez jamais à des inconnus, commence par un échange entre Berlioz, Mikhail Alexandrovitch Berlioz, qui est un rédacteur en chef d'une revue, et un poète, Ivan Biesdomny, qui est un poète qui est dans la ligne du parti, un jeune poète d'origine pas un intellectuel, plutôt un poète qui se dit être un poète du peuple, et en particulier un poète anti-religieux. C'est-à-dire qu'il y avait un moment, on a même écrit des poèmes sur qui s'appelaient La carte du parti, par exemple, qui était la chose qu'il ne fallait pas perdre. Et la spécialité de Biesdomny, c'est d'écrire des poèmes anti-religieux. Or, il se trouve que là, en s'acharnant sur la figure du Christ, il a été tellement loin qu'il l'a presque rendu crédible, ce que lui reproche le rédacteur en chef, qui dit que le Christ est est un mythe sans réalité historique, ce à quoi répond un individu qui se promène par là, qui a un accent étranger, enfin on ne sait pas tellement qui c'est, on s'apercevra un peu plus tard qu'il s'agit tout simplement du diable, ou d'une de ses figures, puisque c'est un diable, c'est un Méphisto, un Satan, mais qui est plutôt un protecteur des arts. C'est-à-dire c'est un truc de Bulgakov de prendre une figure du mal pour s'opposer au véritable mal qu'il subit là, qui est l'oppression totalitaire de Staline.
Alors effectivement, on pourrait voir Le Maître et Marguerite comme l'histoire du diable, et le diable a un rôle simple. C'est un personnage très sympathique finalement dans le roman et dans votre pièce.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis vous dites qu'il symbolise l'art finalement.
Pour moi, oui, il symbolise une sorte de symbolise la liberté, l'ange déchu, on pourrait revenir à tout simplement à ça, ou au porteur de lumière, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai une malice, je m'amuse tout à le faire, à un moment à en faire, il y a le diable homme d'affaires, il y a aussi le diable compositeur. Comment, par exemple, la musique de Mozart, on a toujours tendance à l'attribuer à la musique divine, à la musique céleste. Et là, ça m'amuse beaucoup à un moment de l'attribuer à ce personnage de Voland, qui à un moment compose un peu de musique. Enfin, c'est une petite chose d'ailleurs dans le spectacle.
Mais puisqu'on parle de musique, vous nous avez amené quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
C'est un morceau d'Alexander Mosolov, qui est un contemporain de Tchostakovitch, enfin qui est un musicien de la même période, et qui écrivait de la musique à la gloire de l'industrialisation, et ce morceau est un de ses plus connus, et ça s'appelle la fonderie d'acier, Iron Foundry, en russe, je ne sais pas.
La musique dans Le Maître et Marguerite, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, dans le roman, il y a énormément de citations musicales et il y a également des personnages qui portent le nom de compositeurs. Et je crois que c'est aussi une malice de Bulgakov. Il y a entre autres le premier, le rédacteur en chef qui s'appelle Berlioz. Berlioz, qui, le compositeur français, qui lui-même est allé à Saint-Pétersbourg pour enseigner, en fait, est connu en Russie. On cite également Stravinsky comme psychiatre d'une clinique spéciale, très spéciale, disons. Et puis Rimsky, qui est une allusion à Rimsky-Korsakov, qui est directeur de théâtre. Mais il cite également, il parle d'un livre de Schubert, je ne me souviens plus du nom. Il parle de Gounod, évidemment. Et en citant évidemment Faust. Et pour Berlioz, il s'agit aussi, il y a aussi la damnation de Faust et toutes ces citations d'opéra autour du thème méphistophélien, je ne sais plus comment on dit. Et sinon, il y a également toute une grosse farce que fait la bande du diable, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de Voland. Donc ce Méphisto, notre Méphisto, qui est le fait de... On fait chanter les gens, c'est-à-dire tout d'un coup les gens, sans aucune raison apparente, se lèvent et chantent pendant une minute, se rassoient, continuent leur travail et se remettent à chanter. Et il y a tout un moment du roman qui n'est pas vraiment... qui n'est pas illustré par ce qu'on fait. Il y a de la musique chantée, il y en a un peu, mais c'est pas pareil, disons que... C'est des choses qui nous ont inspirées, pour en revenir à l'adaptation, qui nous ont inspirées par l'aile droite ou par l'aile gauche, disons.
Il y a des musiciens qui accompagnent la pièce.
Alors voilà, il y a trois musiciens, Philippe Kohler au violon, Pierre Homer, piano, accordéon, qu'est-ce qu'il joue encore là-dedans ? Piano préparé surtout, et Julien Israélian aux percussions. Et c'est une musique originale écrite par Pierre Homer, donc il n'y a pas directement de citation musicale. Toute la musique est écrite et improvisée pour l'occasion, en direct et en live, avec une sorte de fausse orchestre latéral également, qu'on appelle le jardinet chez nous.
Son rôle, c'est d'augmenter les moments forts, d'intensifier les moments forts
ou... Oui, souvent dans les pièces, on met, disons, on a soit quelqu'un au son qui met du son, qui passe des sons subliminaux, des ultra graves, des ultra aigus, tout ce qu'on veut. Là, je pense qu'il y a c'est une formule plus brute et plus directe et en même temps plus, pour moi aussi, plus vivante, parce que c'est en live et ça change. Et ça varie tous les soirs, disons, les morceaux.
Ah, c'est improvisé?
Il y a des morceaux fixes, il y a énormément de thèmes qui sont écrits, mais il y a une partie, comme c'est des musiciens férus d'improvisation, voire de jazz, c'est une musique qui est, comment dire, improvisé, mais en fonction de ce qui se passe sur la scène, de ce que font les acteurs. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a une rencontre acteur-musicien, pas systématique, mais disons assez fréquente.
D'accord.
Et comme moi je suis musicien à l'origine, disons au départ, où j'avais des velléités d'être musicien, et pour bifurquer dans le théâtre, et maintenant les choses se rejoignent un peu, et ça me plaît d'être un peu dans les deux choses.
Pour en revenir au Maître et Marguerite, c'est une histoire complexe, foisonnante, avec énormément de personnages, dont un chat géant. Il y a une ou deux décapitations, un arrachage de cœur, ou peut-être pas, mais il y a quelques scènes gore. Il y a quelques scènes gore. Il y a des personnages farfelus. Il y a une sorcière qui vole sur un balai. Vous n'avez pas eu peur de mettre en scène ce roman ?
Oui, beaucoup. Mais c'est ça qui est bon, c'est d'avoir peur.
En tout cas, le résultat est très réussi. Comment vous y êtes pris ?
Ah, ça a été... Je m'en suis beaucoup imprégné, donc au départ, je l'ai beaucoup lu. Et au départ, j'ai simplement fait une base de travail ayant confiance dans le fait que c'était pas une première. J'ai pas, inventé la montre en bois, comme disait mon grand-père, je crois. Ou le fil à couper le beurre. Non, c'est une chose qui se fait assez fréquemment en Russie. On joue beaucoup en Russie, en Pologne, dans les pays de l'Est. On joue assez souvent des adaptations du Maître et Marguerite. Évidemment, c'est un roman de 600 pages, ce qui fait qu'on peut faire un nombre de spectacles incalculables. Je pense même que celui-ci, je pourrais en faire un autre avec, en prenant d'autres bases du roman, d'autres pistes. Je dirais même que c'est un Maître et Marguerite de jeunesse. Puisqu'un jeune metteur en scène aussi dans les pays de l'Est aurait plutôt 45 ans, un jeune metteur en scène de théâtre, donc on voit les choses à plus long terme aussi. Et ça se joue aussi, j'ai vu une version allemande de l'Est. Donc, à la base, Bulgakov étant un homme de théâtre, ses scènes ressemblent quand même assez souvent à du théâtre, c'est ses dialogues. Donc c'est de repiquer ses dialogues, de prendre toute la narration dans ce qu'elle a de plus poétique, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire jouer, je ne l'ai pas mis dans l'adaptation. Et ensuite, c'est un énorme travail de troupe. Et ça, c'est bien, parce que ça n'est pas une adaptation pré-cuite, comme je l'appelle, mais c'est une... Je veux dire, ça a été éprouvé par la scène, certaines répliques ont été revendiquées par les comédiens, et je trouve bien qu'à partir du moment où les acteurs revendiquent des choses qu'ils ont envie de dire, ils vont forcément le dire assez bien, plutôt quand ils sont obligés de dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire.
Il y a beaucoup d'acteurs sur scène, 18 je crois.
Énormément, par les temps qui courent. Il y en a 18, ouais, ce qui est un...
Ça s'est bien passé.
Plus 3 musiciens. Alors, il y en a, bien sûr, oui, enfin, je dis bien sûr, non, ça se passe pas forcément toujours bien, mais là, ça s'est extrêmement bien passé, d'une part parce que c'est des vieux complices, en partie, et les autres sont des gens avec qui j'avais envie de travailler depuis un certain temps, et je me suis pas trompé, je suis content, je suis même très très content, sinon, avec la même équipe, je peux pratiquement refaire 3 spectacles, maintenant, avec ceux qui sont sur scène. Il y en a certains, on peut refaire 2 autres pièces avec une partie. Certains, on a entre 4 à 5, 6, 7, 8 spectacles en commun déjà, soit en ayant joué ensemble, soit en ayant mis en scène, soit ayant moins joué dans un de leurs projets, etc.
Le Maître et Marguerite parlent donc du maître, qui est un personnage que le poète devenu fou, suite à la décapitation de son compagnon, rencontre dans un asile psychiatrique.
Voilà,
et ce personnage, le maître, lui raconte son histoire d'amour et aussi sa grande déception par rapport à la publication d'un livre qu'il a écrit, qui a été énormément critiqué. Est-ce que ça pourrait être Bulgakov, finalement ?
Bien sûr. Ouais. Et je crois qu'au-delà de... le maître qui prend le relais sur cet Ivan Biesdomny, qui dans l'autobiographie de Bulgakov serait plutôt un de ses ennemis. Et donc le maître, on pourrait, oui, effectivement, le voir comme une projection de lui-même. Je pense simplement une chose qui est peut-être plus difficile à comprendre pour nous, c'est que il s'agit pas que du refus d'être édité par des éditeurs. Je pense que c'est plus grave que ça, que dans cette période, quand il y a le refus de l'édition, mais aussi après la critique de la presse, comme quoi il aurait essayé en cachette de publier un roman sur Ponce Pilate, et donc sur Jésus-Christ, donc sur la foi aussi, enfin bon. Je crois qu'il y a une menace implicite de déportation, de goulag. Donc ça n'est pas que un écrivain qui est refusé par son éditeur, sinon ça serait un peu maigre. C'est beaucoup plus que ça. Et ça peut-être que, vu qu'on vit, on ne vit pas la censure directement, en tout cas pas de la même manière, ou pas encore de la même manière, je crois qu'il y a... Voilà, que c'est une chose qui est peut-être plus difficile à percevoir. D'où la présence de ces deux écrivains dans l'asile psychiatrique en pyjama rayé, histoire de suggérer un enfermement, quelque chose de plus fort peut-être, que pour pas qu'on s'y trompe, disons. Quand le personnage du maître parle de la terreur, de la pieuvre qui l'envahit, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là.
En fait, l'enfermement dans l'asile psychiatrique, il y a un enfermement physique, suggère un enfermement mental dû à la peur ou à l'autocensure ou...
C'est pas de l'autocensure, c'est la censure totalitaire.
Il y a une vraie censure.
C'est même le risque de déportation, d'assassinat. Enfin, on sait que, par exemple, si je prends des figures théâtrales ou de l'époque, comme ça peut être Eisenstein, qui est une figure de cinéma, ou Meyerhold, ont été ou assassinés ou déportés. Donc, voilà.
Donc la crainte est réelle.
La crainte de Bulgakov devait être bel et bien réelle, ouais.
Le diable raconte à Biesdomi et au jeune poète...
À Biesdomi.
Biesdomi, ouais, exactement.
Qui veut dire le sans-logis, d'ailleurs, de la même manière que, comme les poètes se donnaient des surnoms, Biesdomi voulait dire le sans-logis, comme Gorki, qui voulait dire la mer.
Et donc, il leur raconte une histoire, le jugement du Christ par Ponce Pilate, et là, on assiste à des états d'âme d'un personnage, Ponce Pilate, qu'on n'a pas l'habitude de...
On n'a pas l'habitude de le voir, ouais, c'est vrai.
De cette façon.
Parce que dans les évangiles, on trouve un très bref échange dans l'évangile selon saint Jean entre Ponce Pilate et Jésus. Et là, il donne la parole à ce personnage qui d'ailleurs, il y a une chose qui... Je voulais à un moment finir la pièce, enfin l'adaptation là-dessus, mais je l'ai fini un peu avant. C'est qu'à un moment, ce Ponce Pilate est un personnage du roman du maître, donc c'est là où ça se croise. Mais c'était peut-être un peu compliqué, là, il faut peut-être venir voir pour le comprendre, c'est plus simple, sur la scène. Donc ce Ponce Pilate, qui est ayant, dans la légende, a été maudit et a terminé sa vie dans les Alpes suisses, donc à Lucerne, puisqu'il y a le Mont Pilate et les avions, les Pilatus Porter, voilà.
Puisqu'on parle du Christ, on a de la musique.
Ah, alors là, j'ai pris une musique de répétition, parce que c'est une musique que j'aime bien. C'est une musique qu'on n'utilise pas du tout, mais c'est donc de nouveau là, une revisitation de mythe. C'est celle du film de Martin Scorsese, qui est La dernière tentation du Christ.
Beaucoup d'acteurs, on l'a dit tout à l'heure, qui est-ce que vous aviez ?
Des acteurs et des actrices, je vais commencer par elle d'ailleurs, Nathalie Quenet, Latifa Djerbi, Camille Giacobino, Céline Gormartic, Gitti Tabrizian, voilà, ce sont nos cinq femmes, et sorcières d'ailleurs, puisqu'à un moment elles deviennent toutes des sorcières. Sinon, dans les hommes, Michel Favre, François Floret, Jean-Pierre Gosse, Thierry Joran, Jacques Médère, Mathieu Chardet, David Marchetto, Roberto Molo, Pietro Musillo, qui est également le scénographe et qui avait un très beau travail de scénographie. Jean Schlegel, Diego Todeschini, Mathias Urban, Gabriel Descopet, qui est notre administrateur également, donc il se retrouve également sur scène, double casquette, comme artiste de complément, comme on dit, et Mathieu Chardet. Voilà, je crois que j'ai... Sinon, dans les musiciens, donc j'en ai déjà parlé, et on a également la lumière et les effets pyrotechniques de Davide Cornil, qu'on a tendance à appeler Cornille dans la presse, mais c'est bien Cornille.
Merci beaucoup Frédéric Pollier. Au revoir.
Merci.